Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur PFM 99.9 pour l'Actualitime, l'émission de débat entre lycéens. Je suis en compagnie de Jeanne.
Bonjour.
Thomas.
Bonjour.
Samba.
Salut.
Héloïse.
Salut.
Et moi-même, Arthur, à l'animation. Je vous rassure, c'est à titre exceptionnel que je remplace votre animateur préféré Thibaut. Il a eu malheureusement un empêchement. C'est l'occasion pour moi de changer de rôle et de ne plus répondre aux questions, mais de les poser. Nous vous proposons aujourd'hui d'aborder le sujet de la pédophilie dans l'Église catholique. Alors avant de commencer, comme la semaine dernière, nous vous proposons un point information qui sera cette fois assuré par Thomas.
Je vous propose une contextualisation qui fera office de mise en bouche. L'Église catholique a toujours été concernée par les affaires de pédophilie. Ces exactions commises par des prêtres sur des jeunes enfants insouciants demeurent notamment plus mises en avant grâce aux médias. L'Église est en pleine tempête depuis maintenant quelques années. Les victimes se font connaître et bravent la honte, exigeant réparation face aux relations sexuelles non consenties qu'elles ont subies étant plus jeunes. Aujourd'hui, l'Église se heurte à une totale remise en question de la relation de confiance vis-à-vis de ses fidèles, qui jusqu'à présent étaient restés inébranlés. Elle se voit obligée de réagir proportionnellement à cette problématique qu'est la pédophilie. Dernièrement a eu lieu un sommet à Rome pour traiter avec tous les responsables de l'Église de ce problème de pédophilie. Il y a eu également, il y a quelques semaines, le refus de la démission du cardinal Barbarin par le souverain pontife. Et en début d'année a eu lieu la destitution du numéro 3 de l'Église, Georges Pell, pour acte de pédophilie. L'Église et ses 1,2 milliard de ses fidèles sont confrontés à un véritable casse-tête pour pallier à la pédophilie et pour renouer une relation de confiance qui a tendance à se détériorer.
Alors merci Thomas. Donc avant de commencer, il me vient à vous demander, cher chroniqueur, êtes-vous croyant? Et si oui, quelle religion avez-vous adoptée? Je ne vous oblige pas à répondre à cette question, vous pouvez soit me faire non de la tête ou dire non tout haut. Samba?
Oui, moi je suis chrétien.
D'accord. Pratiquant, fervent pratiquant?
Non, pas pratiquant.
Non. Héloïse?
Alors je suis aussi chrétienne, donc catholique pour le coup, et je suis pratiquante.
D'accord. Thomas?
Je suis chrétien, mais pas trop pratiquant.
Et Jeanne?
Moi, je suis chrétienne catholique, mais pas pratiquante du tout.
Alors, que pensez-vous du fait que les sociétés s'attachent seulement maintenant à dénoncer et condamner les actes de pédophilie dans l'Église, Samba?
C'est bien qu'ils s'y intéressent, mais après, c'est un peu tard. Mais après, il y a un début à tout, tu me diras. Mais après, je trouve que c'est honteux. C'est des actes qui ne devraient pas y être.
Héloïse?
Je suis d'accord, c'est honteux. Et après, tard, comme tu l'as dit, vaut mieux tard que jamais. Mais c'est important pour ces gens, je pense, de dénoncer les personnes qui ont fait ça et de dire voilà, ça s'est vraiment passé, faut pas croire que tout est beau, tout est rose, et de se mettre devant de la scène pour montrer la réalité à la population, surtout la population catholique qui doit se rendre à l'évidence.
Bien sûr.
Mais après, d'un certain côté, c'est honteux, mais après je pense qu'on est tous humains, alors ça va paraître très bizarre ce que je veux dire, mais on a tous ce côté-là en nous, et bien sûr ça ne devrait jamais arriver, ces actes-là de pédophilie. Mais il faut aussi, je pense, se mettre à la place des prêtres, clairement, qui ont aussi ce côté humain.
Donc ça, on va l'aborder après le célibat.
Ok. Je suis déjà parti dans mon délire, mais ça marche.
Non, mais je te ferai signe quand tu pourras te relancer dans ce délire. Alors okay. Thomas, qu'est-ce que tu en penses?
Rappelle-moi
le fait que les sociétés s'attachent seulement maintenant à dénoncer, condamner les actes de pédophilie.
C'est sûr que ça aurait été mieux de le faire avant, mais bon, comme l'a dit Samba, il y a un début à tout, donc c'est le début d'une nouvelle ère, comme je pense. Si je peux dire.
C'est un grand mot, mais oui, c'est un peu ça. Parce que...
Jeanne, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense qu'il vaut mieux tard que jamais. Et si on le fait maintenant, autant le faire maintenant concrètement et,
plus tard,
et jusqu'au bout.
Puis c'est bien pour les victimes, surtout.
Ouais.
Elles sachent qu'on s'intéresse à ça maintenant.
Puis si on me dit, on ne l'a pas fait avant, pas encore le faire maintenant, on va attendre.
Enfin, non,
il
faut commencer à un moment.
Il faut que ça arrête d'être tabou, il faut que ça soit dit.
Ouais, voilà.
Donc le Vatican a récemment convoqué un sommet organisé uniquement pour traiter cette problématique de pédophilie. Il en est ressorti une grande fermeté à l'égard de ces actes de la part des représentants de l'Église. Mais que pensez-vous du fait que le pape François ait refusé la démission du cardinal Barbarin? Paradoxe, Samba?
Je sais pas trop quoi dire par contre là-dessus.
Alors, il faut savoir qu'il a refusé sa démission parce que le cardinal Barbarin n'a pas...
Il n'a pas violé. Hein.
Voilà, il n'a pas usé d'actes de pédophilie.
Mais par contre, il a dissimulé.
Si on peut dire ça. Voilà, il était au courant et ne l'a pas dit.
Ah oui.
Donc à mes yeux, c'est pas
lui qui devrait être envoyé, ce serait ceux qui sont coupables.
Ouais, mais bon, rien dire, c'est pas mieux non plus.
Oui, c'est sûr.
Je pense qu'il est, il a commis une faute, c'est sûr, mais c'est après.
Ce sera toujours moins grave que ses confrères.
C'est ça. Il a pas commis d'acte en lui-même, donc c'est déjà quelque chose en moins qu'on peut lui reprocher, qu'on lui reproche pas, mais il faut après. Moi, je sais pas du tout comment j'aurais réagi. C'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux de dénoncer, mais au moins c'est peut-être quelqu'un qui vaut le coup, si je peux dire ça comme ça, c'est pas très français, je crois, mais qui est quelqu'un d'important, qui remplit bien son rôle et qui est important au sein
donc
du Vatican.
Toi, tu penses qu'on ne doit pas adopter la même fermeté à l'égard du mensonge et de l'acte, en fait.
C'est ça. Après, je ne sais pas si c'est une forme de mensonge, parce que...
Bah si, quand même. Hein.
Il a rien
c'est
dit.
C'est de la non-dénonciation.
Ouais, mensonge ouais, par omission.
Oui. Ouais, c'est sûr. Mais oui, voilà, pour moi, il doit y avoir une différence de punition, en fait, entre les gens qui ont commis réellement l'acte et les gens qui ont fait preuve ouais. de mensonge.
Mais là, il est complice, du coup. S'il sait qu'il dit pas, c'est sa complicité.
Ouais,
il est complice.
C'est ça, il y a différence entre complicité et acte.
Bah, moi, je pense que c'est aussi grave, hein, parce qu'en fait, il dit aux gens, bah, allez-y, faites-le, c'est pas grave.
Non, c'est pas forcément ce qu'il a dit.
Bah, si, s'il les dénonce pas, c'est, il dit, en gros, je vais pas le dire à la justice, donc vous pouvez continuer de le faire, personne va rien dire.
C'est pas parce qu'il dénonce pas qu'il est pour, ouais. mais effectivement,
oui,
il est pas
incité à le faire.
Ouais, c'est ça. C'est pas une incitation, mais c'est les gens se disent, bon, bah, c'est pas
très
grave.
Il y a rien qui nous empêche.
Il a peut-être aussi peur de perdre sa place.
Oui, c'est ça, il doit y avoir beaucoup de choses en jeu derrière.
Mais je pense que c'est plus important de dénoncer des actes de pédophilie et de sauver des enfants, entre guillemets, que de dire, bon, je vais perdre mon travail. Enfin, je pense que
je
ça
pense
passe
qu'il avait plus à perdre, je pense que sinon il aurait pu parler.
Bien sûr, donc toi, ton point de vue, c'est protéger les enfants plutôt que l'image de l'Église.
Bah oui, carrément.
Alors, justement, pensez-vous...
T'as pas tort, à côté. Ouais, vas-y.
Donc, justement, pensez-vous que l'on peut encore faire confiance aux prêtres aujourd'hui?
Bah oui, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Quoi.
C'est clair. Même au-delà de ça, tous les prêtres ne sont pas pédophiles, heureusement pour nous. Et oui, bien sûr, parce que moi, personnellement, je sais que c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de catholiques, de pratiquants, qu'on connaît autour de nous beaucoup de prêtres, même si ce n'est pas des prêtres, que ce soit des diacres ou toutes les personnes qui sont engagées, qui ont une mission dans l'Église. Voilà, c'est des gens qui sont engagés et qui méritent confiance. Après, voilà, il y a des choses que je peux pas nier. C'est clair qu'il y en a sûrement beaucoup plus qu'on ne le pense, hélas. Mais voilà, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, comme tu l'as dit.
Thomas, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux prêtres?
Bah, bien sûr, on peut pas non plus généraliser l'acte en lui-même. Mais il faut plus les surveiller, parce qu'ils ont un plus grand rapport avec les enfants que n'importe qui d'autre. Donc ils ont plus d'occasions, si je puis dire... pas forcément bien choisi, de commettre de tels actes.
Oui, tu penses qu'ils ont plus d'opportunités que d'autres personnes. Voilà. Donc toi, tu appellerais plutôt à mieux encadrer
les prêtres
qui encadrent justement des jeunes enfants.
En effet.
Jeanne, qu'est-ce que tu en penses?
Non, je suis d'accord avec Thomas, mais je pense qu'après, c'est pas parce qu'il y a 10 prêtres qui ont fait ces choses horribles que tous les prêtres vont le faire. Enfin, moi, j'ai connu des prêtres qui étaient hyper gentils, qui n'auraient jamais fait ça. Et... enfin, c'est comme tout le monde, il y a toujours des gens qui sont comme ça et... c'est pas pour ça qu'il faut dire les prêtres, c'est tous des pédophiles, quoi.
C'est ça, on stigmatise.
Après, voilà. Tu disais tout à l'heure mieux encadrer les prêtres, alors je suis totalement d'accord. Après, les prêtres, la plupart du temps, ne sont... comment dire, c'est pas forcément les prêtres qui vont encadrer les plus jeunes, ça sera plus les personnes qui vont donner...
ouais, les dames, enfin la retraite, enfin moi c'était ça, quoi.
Alors ouais, c'est les animatrices en pastorale qui vont donner les cours de caté, si je peux parler de cours. C'est ça, exactement.
Enfin, en l'occurrence, on parle plutôt d'abus faits... par des prêtres. Hein.
Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais comment dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément les prêtres qui encadrent les jeunes, en fait. Je pense que ces actions qui ont été commises, c'est parce que le prêtre a une affinité avec une famille ou ce genre de choses, mais il va pas, c'est pas normalement dans ses actions. Enfin, comment dire, je sais pas, j'arrive mal à m'exprimer, je suis désolée. Mais le prêtre, dans les moments du dimanche où il va faire la
messe.
Dans
ses responsabilités, tu veux dire. C'est pas normalement l'encadrement, mais justement,
pas dans son
en
rôle
général,
premier,
ces actes, ils ont lieu pendant les messes, pendant, après ou avant. Hein. Je pense souvent quand il y a préparation de la messe, où
par
ils
exemple.
Entrent...
parce que oui, c'est vrai qu'il y a aussi quand même les enfants de cœur qui sont là, les servants de messe, etc.
Bah souvent, c'est plus les enfants de cœur d'ailleurs, parce que les autres, ils n'ont pas vraiment de relation avec lui.
Il y a moins de relation que le prêtre, oui. Donc voilà. Enfin, comment dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas croire que le prêtre a un contact direct avec tous les enfants qui font de la catéchèse ou quoi.
Alors une question paraît légitime. Faut-il abolir le célibat des prêtres? Alors pour ceux qui ne le savent pas, le célibat est le fait que les prêtres n'ont pas le droit d'avoir de conjointeux. Il n'y a même pas la peine d'imaginer la possibilité qu'ils aient un conjoint. Car actuellement, selon la religion catholique, les prêtres sont mariés à la Sainte Marie. Trouvez-vous normal que ces derniers soient obligés de se conformer à cette interdiction?
Alors si je peux me permettre, je pense pas qu'on considère qu'un prêtre soit marié à la Sainte Marie, mais c'est un peu l'idée, c'est que voilà, le prêtre se donne entier à Dieu et pas forcément...
Alors je reprends exactement les termes d'un prêtre, hein, parce que justement j'avais posé la question, pas pour l'émission, il y a plusieurs années maintenant, et il m'avait affirmé qu'il n'avait pas besoin d'une conjointe parce qu'il était comblé par Marie. En fait,
d'accord, comblé, d'accord, je comprends mieux.
Oui, comblé, enfin voilà, ma formulation était peut-être maladroite. Donc, est-ce que vous trouvez normal que ces derniers soient obligés de se conformer à cette interdiction d'avoir une conjointe?
Non, je trouve pas ça normal. Parce que, on peut donner son amour à Dieu en étant marié ou en couple ou avec un homme ou une femme, avec n'importe qui.
C'est vrai que ça fait partie pour moi du bonheur humain de vivre avec quelqu'un, d'être en couple. Sûr. Après, quelqu'un qui veut à la fois être en couple et se donner à Dieu peut très bien devenir diacre. C'est le cas de pas mal de personnes qui sont souvent déjà mariées, qui ont souvent déjà des enfants, qui décident de devenir diacre. Et oui, voilà, ça fait partie de la mission d'un prêtre de décider de devenir célibataire pour toute sa vie. Et comme ça, après, c'est vrai que ça peut paraître très, très strict, très protocolaire, etc. Mais c'est leur choix, finalement.
Ça fait très ancien monde, je trouve, moi.
Oui, c'est ça.
Enfin, je vais prendre l'exemple des pasteurs. Ils sont hyper bons dans ce qu'ils font et il y a beaucoup moins de scandales avec eux parce qu'ils ont une femme, des enfants et ils sont comblés dans tous les niveaux. Ils ont leur famille, ils ont la religion et je pense que même même pour eux c'est mieux de faire ça parce que ils sont à fond dans ce qu'ils font parce que ils ont une vie sentimentale et affective qui est remplie quoi.
Donc en fait la question que tu soulèves c'est pourquoi en fin de compte ces prêtres devraient prêcher un certain bonheur et ne pourraient pas y accéder.
Voilà, c'est ça. Et puis ils ont beaucoup moins de légitimité. Quand ils parlent pas du bonheur familial ou des choses comme ça, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Donc c'est un peu bête.
Ce qui rend leurs paroles moins importantes.
Pas forcément moins importantes, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'ils connaissent pas et là c'est qu'ils peuvent pas témoigner. Mais bon, c'est vrai que de la religion protestante est plus libre, on va dire, plus ouverte sur ce point, et c'est pas plus mal au niveau de la religion.
Thomas, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah après, c'est rentré dans les mœurs, mais c'est devenu
normal.
C'est normal. Enfin, dans la religion, c'est écrit, c'est acté, c'est comme ça.
Effectivement, d'un autre côté, certains diront à juste titre que lorsque l'on souhaite devenir prêtre, on connaît à l'avance le vœu de chasteté et donc
les prêtres ont,
dès le début de leur séminaire, véritablement conscience de cette interdiction d'avoir une compagne. Est-ce que vous répondez ?
Non, c'est vrai. C'est, par exemple, même si elles ne sont pas concernées par la pédophilie, c'est comme les sœurs qui décident de vivre une vie entière de prière, etc., qui savent très bien qu'elles vont passer leur vie célibataire et c'est un choix, c'est un vœu qu'on fait. Et pour avoir déjà vu, par exemple, des communautés de frères ou de prêtres qui vont pendant des années se former et vraiment pour être sûr de cette décision pendant une dizaine d'années et dire bah voilà, maintenant après toutes ces années de formation à ce métier, si je puis dire, qui vont dire voilà, je suis prêt à faire ce choix de chasteté et de célibat. Et voilà, on peut pas leur enlever ce choix. Il y a plusieurs personnes dans le monde qui décident ça. On peut pas leur enlever cette possibilité. S'ils décident de faire un vœu de chasteté, c'est leur choix.
Donc il y a deux aspects qui m'intéressent. Là, il y a l'aspect sentimental qu'on a développé précédemment, mais il y a également l'aspect sexuel. Est-ce que vous pensez que c'est humain d'interdire à une personne de profiter de sa sexualité
Là encore, c'est un choix. C'est comme on a dit.
Je le mets en relief avec le fait qu'il y ait la pédophilie, donc.
Besoin, en fait.
Ouais, ça devient un besoin.
C'est ça le problème. J'ai peur que quand quelqu'un, qu'il soit homme ou femme, fasse un vœu de chasteteté, j'ai peur qu'on se rende pas compte que faire un vœu de...
C'est ça, les premières années, c'est pas très grave.
Et après, ça devient de plus en plus compliqué. Pour le peu des fois, on est déjà à 25 ans, 30 ans, ils sont quand même vachement jeunes, pour décider de ça sur toute une vie. Et après, alors que c'est clair, c'est prouvé, il y a des recherches qui ont été faites, c'est un besoin. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, j'en aurais besoin toute ma vie. Non, on peut pas vraiment contrôler ça. Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça le plus gros problème dans ce qui provoque la pédophilie, hélas, c'est que ça, le besoin ressort et ils doivent assouvir leurs besoins, du coup.
Puis, il n'y a même pas que la pédophilie... Pardon, je t'ai coupé, non ?
Non.
Il y a aussi des femmes, des sœurs qui sont violées par les prêtres, des choses comme ça. Je pense que si on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir se marier, d'avoir des enfants, c'est compliqué pour eux, quoi. Faire le choix de ne pas avoir de femmes, mais qu'ils puissent faire le choix. Qu'ils ne soient pas obligés de ne pas avoir...
C'est ça, en fait, ce qu'on reproche, en fait, finalement, aux prêtres, c'est qu'ils ont fait un choix et finalement, ils transgressent ce qu'ils ont promis en faisant acte de pédophilie.
Puis aussi, la vie de couple et le sexe, c'est quand même des choses qui sont ancrées dans la société maintenant, quoi. On entend la vie de couple,
on entend
partout.
Même au-delà de la société, dans le bonheur de quelqu'un, on a besoin de ça.
Donc, ça doit être frustrant de ne pas pouvoir vivre ça, quoi.
Ouais, c'est clair.
Alors, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la seconde partie de cette émission.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être gagnant. J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh. Donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires.
Alors, rebonjour et bienvenue dans cette émission d'Actuality. Je suis en compagnie de Jeanne, Thomas, Samba et Héloïse. Alors, nous reprenons sur le sujet de la pédophilie dans l'Église catholique. Alors, on sait que l'Église a longtemps fait le choix de rester silencieuse et de ne pas faire de vagues. Un des principaux sujets tabous est celui de la sexualité dans sa globalité, notamment concernant les LGBT. Trouvez-vous normal qu'à notre époque, on puisse tolérer la présence d'une institution d'une telle ampleur ? Et qui remettent indirectement en question les valeurs républicaines et les constitutions des États démocratiques.
Est-ce que tu peux répéter, et répéter ta question?
Alors, je vais
expliquer la question.
Ouais, expliquer.
En réalité, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on tolère une institution qu'est l'Église avec une telle ampleur et qui, quelque part, remette en question les droits des États démocratiques, notamment au sujet de la sexualité, donc du choix de son partenaire, parce que l'Église est contre les LGBT, et après on peut également rembrayer au niveau de la pédophilie. Donc est-ce que vous trouvez ça normal?
Alors si je comprends bien, ce que tu es en train de nous dire, c'est en fait le juste milieu entre l'État et l'Église, en fait, parce que le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'Église sont séparés depuis maintenant bien longtemps.
1905.
D'accord, mais oui, excuse-moi, je n'avais pas la date. Mais c'est vrai que face à ces questions-là, c'est dur de dire quel droit, quelle place est censée prendre l'Église face à ces aux réponses qu'est censée donner l'État ou l'Église ou les deux. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, du point de vue de la France, on est un pays laïque, donc on est censé autoriser voilà, les mariages LGBT, toutes ces choses-là. Mais d'un point de vue de l'Église, à la base, comme la France est quand même un pays catholique, on pourrait très bien dire, en France, les homos n'ont pas leur place ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas, je vous rassure, hein, c'est pas du tout mon avis. Mais voilà, ce que tu es en train de dire, c'est d'un point de vue de l'Église, pour, ce qu'on a le droit de dire que les LGBT devraient ne pas pouvoir se marier.
Est-ce qu'on a le droit encore, à notre époque, de faire des exclusions arbitraires, en fait?
Moi, je pense que le problème de l'Église, c'est qu'en fait, ils n'avancent pas assez vite par rapport à la société.
Et, ça s'adapte pas.
Par exemple, je sais pas, il y a 50 ans, ils étaient contre le divorce, maintenant, ils le tolèrent. Et je pense que dans 50 ans, ils seront pour les mariages gays, mais il faut que ça avance, quoi. Et ça avance pas assez vite, mais ça va le faire.
Ils sont en train de retard, quoi.
Ouais, voilà.
Non, je trouve que c'est pas bien, quoi. Surtout que c'est des choses qu'ils choisissent pas, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, déjà ça. Donc, le choix de son partenaire, on le choisit pas vraiment. Donc, non, c'est pas bien. En plus, l'Église, c'est une grande institution. Donc, je trouve ça pas logique qu'une grande institution comme ça soit contre les nouvelles valeurs républicaines, quoi.
C'est clair.
Et puis, c'est sûr que, ouais, elle est restée dans le passé. Mais pour montrer l'exemple de chasteté, c'est des méthodes d'un autre temps, si je puis me permettre.
Des valeurs anciennes. Donc je vais rembrayer sur cette idée de système archaïque. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les religions reposent sur une hiérarchie des systèmes justement archaïques? Et est-ce que vous comprenez que pour l'Église catholique, celle-ci ait fait le choix de rester sur un modèle qui date de son fondement, puisqu'on peut établir un lien avec cette volonté conservatrice et la pédophilie qui est restée impunie pendant tant d'années? Pourquoi ne pas évoluer avec la société? Après tout, il serait gagnant. La messe monotone du dimanche matin à 9h pétante n'est pas très attractive auprès des jeunes.
Carrément pas.
Ça, c'est un autre débat. C'est vrai que, après, voilà, tout dépend du point de vue. Hein. Mais tout dépend du point de vue, clairement. Du point de vue, du coup, quand tu parlais de pédophilie, voilà, ce nombre d'années qui sont restées dans le silence, c'est vrai que l'Église a toujours été conservatrice de ses principes, de ses fondements.
Ouais, et puis c'est protéger les siens aussi. Hein.
C'est même pas les siens, c'est ses principes en fait. C'est dire, voilà, on a tel principe, on a toujours fonctionné comme ça, pourquoi changer? Parce qu'on ferme les yeux sur ce qui va pas face à la société qui commence déjà. Alors c'est vrai qu'en France, le nombre de croyants baisse. On a de moins en moins de catholiques
partout,
pratiquants.
Hein.
Alors, c'est pas forcément le cas partout dans le monde. En France en particulier, mais il y a des pays...
En Afrique, je pense que ça doit pas baisser.
C'est clair. Il y a pas mal de pays, que ça soit en Afrique ou même en Asie ou en Amérique latine, où le nombre de pratiquants ne baisse pas, mais en France, c'est le cas. Voilà, il faut qu'elles se rendent compte que ça peut plus marcher comme ça. Sinon, ça va... Enfin, comment dire, les personnes pratiquantes qui restent dans cet esprit conservateur vont vraiment devenir marginaux et former deux sociétés avec plus vraiment les mêmes principes, ça va poser problème, quoi.
Je pense qu'on peut nuancer un peu quand même, parce que l'Église, elle, dans ses idées, elles peuvent rester les mêmes tout en évoluant un peu quand même.
Oui, c'est pas. Enfin, c'est les possible. Pratiques qui doivent changer en fait. Ouais, voilà. C'est les techniques qui doivent.
Il faut s'adapter à son temps.
C'est
quoi.
Ça.
Puis c'est leur façon de réfléchir aussi. Enfin, c'est les gens qui dirigent l'Église, c'est quand même des gens qui sont assez âgés et
pas
qui. Bah, enfin, les grands dirigeants, je suis désolée, mais les cardinaux et tout, ils ont pas 20 ans. Hein.
Ils ont
après, c'est ça. En fait, un cardinal peut pas doit faire un certain chemin avant de devenir cardinal et l'âge.
Voilà.
L'âge
et du coup, ils réfléchissent encore comme quand eux, ils étaient jeunes et ils ont pas forcément un recul que. Enfin, nous, on n'a pas parce qu'on est encore très jeunes, mais les gens de 30 ans pensent carrément différemment qu'eux, quoi.
C'est vrai que là, du coup,
c'est
ça voudrait dire changer tout le fonctionnement de la hiérarchie de l'Église, là, ça va... Enfin...
Non, pas tout changer, mais améliorer un peu. Puis au fil du temps, par exemple, je sais pas, la France est devenue une république, ça a changé quand même, les gens, ils ont évolué. Pourquoi est-ce qu'il y aurait que les États qui évolueraient et pas forcément la religion?
Je vois. Avec la fin, c'est comme on disait tout à l'heure, par exemple, autoriser les prêtres à pouvoir se marier, etc. Il va falloir du chemin pour autoriser ça, hein, clairement. Beaucoup de débats
pas encore.
C'est clair.
Donc ce que vous soulevez, c'est que ça serait bien que l'Église entreprenne l'arrivée de jeunes dans son assemblée, parce que c'est vrai que quand on regarde la curie, donc c'est le gouvernement de l'Église, il y a énormément de personnes relativement âgées. Donc effectivement, c'est ça que vous soulevez.
Alors, il faudrait des idées neuves, disons.
D'accord.
Ouais, et puis voir la vie autrement, quoi.
Ouais.
Trouvez-vous normal que les enfants soient exposés à la religion dès le plus jeune âge? Car de ce fait, est-ce que les parents ne portent pas atteinte aux libertés de l'individu, qui est certes un enfant, et par conséquent, cet enfant se retrouve exposé sans capacité de discernement aux doctrines religieuses? Ma question est en réalité, est-ce que ce n'est pas imposer la religion aux enfants que de leur faire passer les différents sacrements dès leur plus jeune âge?
Non. Alors... Parce qu'après, quand ils sont adultes, ils sont libres de changer et de se convertir à la religion qu'ils le souhaitent.
Après, tu as utilisé le terme doctrine, sauf que moi je trouve ça un peu fort comme mot. Mais,
au même titre que des doctrines politiques. Hein.
Oui, je vois. Mais après,
les idéaux, en fait.
Je pense que tout dépend de la façon dont c'est fait. Si forcément on oblige l'enfant à être dès le plus jeune âge dans un établissement où il ira à la messe tous les jours, où il va devoir se confesser régulièrement, là c'est clair que c'est un peu trop poussé. Mais si c'est simplement un établissement comme les autres, juste un établissement voilà, privé, catholique, et où les sacrements sont faits quand même à partir du CM2, il y a quand même un cheminement qui est prévu
c'est
pour ça.
C'est le CM1, non?
Ça, alors oui,
moi j'ai
oui,
passé ma première communion en CM1.
En fonction des écoles, c'est première communion en CM1, profession de foi en 6e, ouais. Et après c'est soit au collège, soit au lycée pour la confirmation. Et enfin, moi je vois, il y a qu'à voir le nombre de jeunes qui naissent dans des familles catholiques et qui finissent par devenir athées ou juste non pratiquants parce qu'ils ont perdu la foi. Et ça montre bien qu'on laisse la liberté aux jeunes et que finalement c'est à eux de choisir ce qu'ils font. Ouais. Même, ça arrive souvent que des jeunes font leur profession de foi et puis finalement, avec l'âge, qui commencent à oublier la religion ou ne plus y faire attention et à perdre un peu la foi. Et enfin, il y a très peu de jeunes dans les jeunes qui font leur profession de foi qui finissent par faire leur confirmation. Donc,
Après, pour rebondir à ce que tu as dit, pardon, je trouve que même les gens qui disent qu'ils sont... Je trouve que même être athée maintenant, c'est devenu une mode un peu... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que tout le monde dit ouais, je suis athée, machin, mais après ils font quand même des fêtes religieuses, donc ça c'est un truc que j'ai pas tellement compris.
C'est sûr.
Moi je pense que c'est un peu compliqué de croire en rien. Enfin, même si tu crois, pas, un joueur de foot, tu crois quand même forcément en quelque chose. Enfin, c'est un peu triste de croire
en
rien.
Moi ça me fait du bien d'avoir une croyance, même si je suis pas pratiquant en fait, je sais pas. Ça
mais même si tu crois pas en Dieu, on s'en fout, mais tu crois en quelque chose quoi.
Ça apporte du réconfort.
Ouais, voilà, ça aide dans certaines situations.
Ça apporte de l'espoir quand même.
Un truc tout bête, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ne pas croire en Dieu, mais qui peuvent très bien croire en l'homme, croire en ses capacités.
Ouais, voilà, même si tu crois en l'homme, tu crois en la science, tu crois en ce que tu veux.
Et ça dépend des gens.
Chose.
Il y a des gens totalement fermés à ça.
Tout le monde croit forcément en quelque chose, je pense.
Oui, je pense que c'est plus.
Même si tu crois en ton chat, tu crois forcément en ton chat. Quoi.
Oui, bien sûr, mais après, il y a croire et croire, quoi. C'est plus vraiment la même croyance, du coup.
Thomas, qu'est-ce que tu en penses?
Puis ça prend une place aussi dans la construction de l'individu.
Enfin,
forcément, dès le plus jeune âge, la religion, ça pourra lui apporter des choses.
Des valeurs.
Des valeurs, c'est ça.
Et ça, je pense que c'est peut-être le plus important dans la religion. C'est sûr. Quel que soit le Dieu en lequel on croit, quelle que soit la façon dont on y croit, ça apporte des valeurs de respect, de principes, de tolérance, de tout en fait. Toutes les choses qui font le fondement de l'homme. Et quelles que soient les religions, ça c'est vraiment le point commun, je trouve, entre toutes les religions. Bon, surtout monothéiste, parce que c'est celle que je connais le mieux. Je sais pas trop pour le bouddhisme, etc. Mais
ouais, même le bouddhiste,
je pense que oui, c'est vraiment...
Respect de l'autre.
Que ça soit respecter son voisin, que ça soit... aimer un maximum de gens, enfin ça c'est vraiment les principes de base partout et ça peut faire que du bien comme tu dis à la construction de la personne. Enfin moi je sais que je serais pas du tout la même si j'étais pas croyante et c'est important d'avoir ces principes-là et c'est ce qui se perd je trouve de nos jours chez les jeunes quoi.
Puis c'est des valeurs que tout le monde doit avoir. Enfin
c'est
je veux dire
c'est hyper important.
L'égalité, respecter les autres, croire en tout le monde.
Est-ce que ce n'est pas le rôle de la République d'inculquer ces valeurs? Est-ce que ça doit nécessairement passer par l'organisation étrangère?
C'est un apport de plusieurs...
Ça peut être les deux.
Mais c'est,
ça,
c'est
ça.
Toujours mieux, quoi.
Puis il y a aussi les parents, les amis...
Il y a un peu tout le monde qui
joue en...
Qui est censé avoir porté cette éducation-là de valeurs.
Les pères...
D'accord, donc vous soulevez une complémentarité.
C'est ça.
Alors, la religion catholique est fondée sur la croyance. Croyance qui est intimement liée à la confiance. Après tous ces actes de pédophilie, avez-vous encore confiance en l'Église catholique? Je m'adresse aux croyants, et pour donc il n'y a pas de non-croyants, donc je m'adresse uniquement aux croyants. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir encore confiance en l'Église catholique?
Bien sûr.
Oui.
C'est comme pour les prêtres tout à l'heure, c'est la même question au final.
Mais pour l'institution en général.
En général, même, oui, bien sûr, bien sûr.
De généralité, quoi.
C'est ça.
On peut avoir confiance parce que malgré tout ce qui s'est passé, il reste toujours des gens qui croient, et il reste toujours des gens qui ont ces principes-là, qui ont foi en l'homme et qui ont foi en Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est beau, c'est de voir tous ces gens qui croient en la même chose, qui ont ces principes-là, qui sont porteurs de quelque chose de bien. Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance, parce qu'en fait, à partir du moment où l'on croit, on a confiance. Donc si on est croyant, enfin, ne plus avoir confiance en l'Église, c'est ne plus vraiment croire en Dieu, en fait. Donc si on décide de croire, il faut qu'on garde cette confiance-là qui nous porte et qui peut vraiment nous aider dans la vie.
Donc toi, tu rattaches intimement l'institution qu'est l'Église et la croyance en Dieu.
Pour moi, si on croit en l'un, c'est qu'on on est censé croire en l'autre.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je ne suis pas très d'accord. Je pense que tu peux croire en Dieu sans croire en l'Église. Enfin, l'Église, c'est juste quelque chose qui est un intermédiaire entre
une
toi et Dieu.
Une incarnation physique.
Oui, ouais, voilà. Mais tu peux très bien prier tout seul et croire qu'il y a un Dieu et croire en lui, mais sans forcément devoir aller à l'Église ou faire ce que les prêtres te disent de faire ou faire le carême ou des choses comme ça. Quoi.
Après, faut savoir, je ne peux pas vraiment dire ça, mais... Croire seul, croire être dans sa petite bulle et juste faire sa
prière. Non, mais tu peux croire avec tes amis, mais pas forcément avec...
Dans l'église elle-même, tu veux dire.
Dans l'église elle-même, ouais.
Après, On a quand même, enfin, pour par exemple, rien que pour se confesser, on a besoin d'un prêtre. Il y a pas mal de choses pour lesquelles on a besoin de gens de l'Église finalement. Donc on peut croire sans vraiment avoir confiance en l'Église, mais on peut pas. Comment dire, il y a des choses qu'on pourra pas faire sans l'Église en tout cas. Rien qu'aller à la messe, c'est quand même vachement important. Enfin pour les pratiquants en tout cas, le fait de faire des sacrements, de se réunir, d'être en groupe, parce que voilà, la religion seule c'est quand même vachement dommage. C'est beaucoup mieux en groupe. Faut se rendre compte que si les prêtres ils sont là, c'est pas pour rien quoi.
Alors, une question qui me vient comme ça, les prêtres font leur séminaire, mais après tout, ça a quand même un impact psychologique, et les gens, ils vont pour des questions psychologiques. Est-ce que ça ne serait pas plus mal qu'on invite les gens à aller voir des spécialistes comme des psychologues ?
Pourquoi faire ?
Indépendamment de l'Église, pour justement pallier à ce problème de pédophilie ?
Ah.
Ah, les prêtres,
les
victimes. Les personnes qui ont une formation de psychologue ont une autre approche auprès des jeunes enfants.
Tu veux dire, les victimes de pédophilie doivent aller voir des psychologues?
Non, même
même les enfants.
Voilà.
Bah, tu vas pas emmener tous les enfants qui sont chrétiens voir des psychologues, t'imagines le nombre d'enfants?
Quelque part, si les parents invitent les enfants à aller voir les prêtres, c'est pour des questions psychologiques aussi.
Non, mais ça, forcément, ça peut retourner le cerveau d'un enfant, parce que ça va être deux avis peut-être différents du prêtre et...
Tu veux dire, par exemple, aller voir les psychologues pour se poser les questions qu'on peut se poser au caté, donc la notion d'existence, tu disais, la notion de pardon, la notion de toutes ces choses-là.
Des questions existentielles, enfin.
Je pense que t'as pas forcément besoin de psychologue pour penser à ça.
Pas forcément. Non. Ça reviendrait à dire de remplacer l'Église,
ouais, voilà,
par la psychologie.
Mais une alternative à l'Église. Sûr, donc,
c'est une façon de voir
les choses. C'est les choses que tu parles, c'est pas français. T'en parles avec tes parents, t'en parles avec les prêtres, t'en parles avec tout le monde, mais t'as pas besoin de psychologue, quoi.
Alors, Maxime nous propose une rubrique cinématographique. Alors, c'est une nouvelle rubrique que nous vous proposons. Donc, on vous propose un film en lien avec le sujet abordé. Donc, le film proposé est Spotlight.
Donc, Spotlight, c'est un film d'une unité de presse. L'unité, bon, c'est pas forcément le mot, mais qui va enquêter sur des affaires de pédophilie dans l'église, tout simplement. Qui est un bon film.
Des journalistes de Boston Globe sur les prêtres pédophiles. Donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Avez-vous des réactions avant de conclure ?
Je pense que pour la prochaine émission, on pourra penser à ouvrir encore un peu plus le débat sur, par exemple, ce qu'on a pu entendre sur Michael Jackson ou tous les problèmes de... Ouais. Au-delà de la pédophilie, du viol, etc., de problèmes même du niveau du sexisme, au niveau de l'égalité des sexes, etc., qu'on pourra du coup en débattre la prochaine fois.
Oui. Bah écoute, merci Louise pour cette ouverture et nous vous donnons rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.